Le Monte des Paschi s'est trouvé accablé par des prêts de mauvaise qualité qui viennent d'un côté de la crise de la dette souveraine et avant ça de la crise des subprimes. Comme plusieurs banques en fait en Europe, le secteur bancaire italien a été fragilisé par la crise. Contrairement aux banques d'autres pays, cette fragilité a émergé un peu plus tard. Et donc, du coup, on avait déjà mis en place des règles qui empêchaient les sauvetages qu'on a fait dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, par exemple, ou la France même. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, qu'en juillet dernier, MPS a été la banque la plus grande qui a échoué au stress test de la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est depuis août dernier qu'on savait qu'elle avait besoin d'une recapitalisation. C'est-à-dire, on devait injecter de nouveaux fonds dans le bilan de la banque pour la rendre plus robuste face à une nouvelle crise, si vous voulez. Et on a essayé de parcourir la voie de la recapitalisation par les marchés, c'est-à-dire par des prêteurs privés, ce qui a échoué la semaine dernière. Et comme ça a échoué, on n'avait pas d'autre choix qu'une intervention du gouvernement italien, du trésor italien.
Le gouvernement italien, appelé à la rescousse par la BCE, la Banque Centrale Européenne, demande un plan de sauvetage à hauteur de 8,8 milliards d'euros. Est-ce que ça n'est pas une nationalisation temporaire de facto ?
Absolument, oui. On est parti pour au moins 18 mois de propriété publique de la Banque Monte dei Paschi. Chose qui est plutôt pas mal, parce que par rapport au sauvetage qu'on a fait par le passé, comme l'État devient propriétaire, si la banque est effectivement sauvée et remise en état de marche, quand l'État va vendre ses parts, il pourrait faire, si pas un profit, au moins réduire les coûts pour les contribuables du sauvetage. En dépit de quelques déclarations qui se font au niveau européen, par exemple en Allemagne, cette opération est faite en respectant l'esprit et la lettre des règles européennes qu'on a votées depuis 2010, notamment la directive de 2014. Donc les gens qui craignent des problèmes au niveau européen, je pense qu'ils se trompent. Le Trésor italien a travaillé depuis août dernier en coopération très étroite avec la Commission et avec la BCE. Donc moi je pense qu'au niveau européen, il n'y aura pas de soucis là. Et les plans iront comme programmé. Après, le grand point d'interrogation, c'est est-ce que le nouveau management, le nouveau plan industriel qu'on mettra en place pour la Banque à Monte des Paschi qui va la rassainer ou pas? Et si ça se fera, le coût pour les contribuables pourrait être très fortement réduit.
Est-ce qu'une situation de ce genre s'est déjà produite ailleurs en Europe et a porté ses fruits? Raison pour laquelle vous seriez plutôt optimiste?
Les précédents que j'aime bien citer, c'est les précédents des années 90 quand en Suède, on a nationalisé les 4 ou 5 banques plus importantes. On a fait un sauvetage à hauteur de 4% du PIB suédois de l'époque. C'est un sauvetage énorme en termes de coûts pour les contribuables suédois. Et ces coûts étaient réduits de la moitié, un peu moins que 2%, une fois revendus les parts deux ou trois ans plus tard.
Est-ce qu'on peut envisager d'autres scénarios? Par exemple, on parle en Italie d'entreprises du BTP qui ne remboursent pas leurs emprunts. Est-ce que les pouvoirs publics pourraient donner du travail à ces entreprises afin qu'elles puissent rembourser leurs emprunts et que les banques ne soient plus menacées?
Moi, je suis un peu dubitatif. Ou bien on a une approche très dirigiste et du coup, on arrive presque à imposer à cette entreprise de faire ce qu'on veut. Donc, comme vous dites, d'utiliser les revenus des travaux qu'on leur a confiés pour repayer leurs prêts, ou bien il faut se fier au marché et rien n'assure qu'une fois fait ces travaux, les entreprises effectivement remboursent la banque. Donc moi, sur ça, je suis beaucoup plus sceptique. Je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui les moyens d'intervenir de façon si lourde dans les processus économiques qui, heureusement, restent des processus de marché.
Est-ce qu'un renflouage pourrait éviter un scénario qui serait catastrophique, qui serait un effet de domino avec des banques qui font faillite les unes après les autres en Italie?
MPS, c'était la plus grande des banques qui sont aujourd'hui en difficulté. Donc, une fois qu'on aura renfloué la MPS, c'est clair qu'on aura stabilisé les systèmes dans son ensemble. Ceci n'empêche qu'il pourrait y avoir d'autres banques qui, dans les mois qui viennent, se trouvent en difficulté. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement, en fait, a prévu une capacité d'intervention qui va bien au-delà des 8 milliards dédiés au sauvetage de MPS.
Le Parlement italien a voté un fonds de 20 milliards d'euros.
Un fonds de 20 milliards, c'est 2,5 fois ce qu'on a dépensé pour MPS. Ça nous donne de la marge, surtout parce que les autres banques en difficulté vont très probablement être beaucoup plus petites. Donc, on parlera de montants beaucoup moins importants.
Certains disent que 20 milliards, ça n'est pas très bon augure. Ça veut dire que d'autres banques pourraient être bientôt en difficulté?
Non. Dans tout ça, les anticipations sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut intervenir au bon moment, chose qu'on n'a pas faite parce qu'il y a eu des problèmes, comme vous savez. Il y a eu le référendum qui a un peu ralenti toute l'opération, qui a rendu les choses plus compliquées, et surtout en étant crédible. Alors, si on intervient avec des ressources qui ne sont pas suffisamment importantes, les marchés pourraient penser que, comme les ressources ne sont pas importantes, le gouvernement n'arrivera pas à stabiliser le système. Et donc, ceci crée instabilité. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qu'on met en place. Je pense que les 20 milliards, la raison pour laquelle on a visé si haut, c'est plus qu'un pour cent du PIB italien, donc c'est un montant très important, c'était fait pour signaler au marché qu'il n'y aura pas de déstabilisation majeure du secteur bancaire italien. Alors, ce signal, s'il est perçu comme crédible, va très probablement suffire pour que les marchés ne fragilisent pas d'autres banques.
Et concernant les petits épargnants, on a vu nombre d'entre eux retirer leur argent de la banque, notamment de Monte Paschi di Siena. Est-ce qu'ils ont raison de s'en faire ?
Par rapport au compte courant, en dessous de 100 000 euros, il y a une garantie en fait de l'État, donc eux, ils ne craignent rien. Dans le cas de Monte dei Paschi, on a fait un choix qui est tout politique, de compenser à hauteur de 100% de leur investissement, ce qu'on appelle les obligations subordonnées, donc plus risquées. Et ça, en revanche, c'est un choix qui me laisse un peu plus perplexe, parce que c'est clair que là, on me donne le signal que si tu investis de façon imprudente, mais dans une grande banque, tu es sauvé. Et si tu investis de façon imprudente dans une petite banque, comme c'est passé par exemple pour la banque Etruria il y a quelques mois, et là, tu perds de l'argent. Et donc, on a fait un peu une première, une deuxième division d'investisseurs qui sont par ailleurs identiques, chose qui pourrait créer des problèmes et aussi faire monter la grogne. Et moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui a perdu de l'argent il y a 6 mois avec Anton Bennett au Banque Etruria pourrait être content de voir qu'aujourd'hui, un investisseur dans les mêmes conditions dans la banque Monte dei Paschi n'a pas perdu cet argent. Donc là, à mon avis, on a fait une erreur. On devait mettre à contribution au moins partiellement les petits épargnants. On ne parle pas des dépôts, parce que les dépôts sont, comme vous, les comptes courants sont couverts jusqu'à 100 000 euros. Ça, il n'y a pas de souci. Ça a été le cas aussi pour les autres banques. On parle pour ceux qui ont prêté de l'argent à la banque par ces prêts obligataires.
Vous voulez dire que ça pourrait aussi mettre en difficulté de plus petites banques parce que des petits épargnants, des petits actionnaires préféraient investir dans des grandes banques, du coup ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça pourrait exactement se produire ces phénomènes-là. Du coup, demain, l'investisseur qui doit choisir s'il investit dans une petite banque ou une grande banque pourrait se dire « je préfère prêter à la grande banque parce que du coup, là-bas, je serai plus protégé en cas de problème ». Vous avez parfaitement raison, ça pourrait changer aussi le comportement des épargnants.